Radio Prague, les informations.
Bonjour, selon Reuters, Ye Jianming, chef de l'entreprise propriétaire du club Slavia et conseiller du président Zeman, ferait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Secteur aérien, la société Travel Service a pris le contrôle de Czech Airlines et puis Aleš Opata va devenir le nouveau chef de l'état-major de l'armée tchèque. D'après une source anonyme citée par l'agence Reuters, Ye Jianming, président de la société chinoise China Energy Company Limited, CEFC, et membre de l'équipe de conseillers du président tchèque Miloš Zeman, ferait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Cette enquête aurait été lancée cette année, mais aucune information ne précise qui a dirigé celle-ci ou si elle est encore en cours. La société CEFC détient des parts dans de nombreuses sociétés tchèques. Elle est par exemple propriétaire du club de foot pragois, le Slavia, mais elle détient également des parts dans la compagnie aérienne Travel Service qui vient de prendre le contrôle du transporteur aérien national Czech Airlines. CEFC possède également une majorité des parts de la brasserie Lobkowitz Group, cinquième plus grand producteur de bière dans le pays. La compagnie sud-coréenne Korean Air et l'État tchèque ont vendu leur part dans le transporteur aérien national Czech Airlines à la première compagnie charter tchèque Travel Service, a annoncé celle-ci mardi. Travel Service, qui détenait 34% des parts de Czech Airlines depuis 2013, a finalisé mardi l'achat des parts jusqu'ici contrôlées par Korean Air et par la société d'État Prisco, selon la porte-parole de Travel Service. Travel Service devient ainsi propriétaire de Czech Airlines à 97,74%, a constaté cette dernière dans un communiqué, sans toutefois révéler le montant de la transaction déjà approuvée par l'autorité de la concurrence locale. La compagnie d'assurance tchèque Česká pojišťovna conserve les parts restantes. Aleš Opata va devenir le nouveau chef de l'état-major de l'armée tchèque, a annoncé la ministre de la Défense démissionnaire Karla Šlechtová. À l'heure actuelle, celui-ci, l'adjoint de l'actuel chef d'état-major Josef Bečváš, Aleš Opata devrait prendre ses fonctions en mai prochain. L'une des premières tâches qui attend le nouveau chef d'état-major sera une réorganisation du commandement de l'armée tchèque, a précisé la ministre. Karla Šlechtová veut également étudier avec lui l'équipement et l'armement des forces militaires du pays. Je vais discuter avec lui de grandes acquisitions dont l'armée va avoir besoin, a-t-elle précisé. L'état de santé de Soudan, le dernier rhinocéros blanc du Nord, mâle, a considérablement empiré. Âgé de 47 ans, ce rhinocéros appartient aux eaux tchèques de Dvour Králové et vit dans la réserve Olpejeta au Kenya. Soudan souffrirait d'une infection et selon les vétérinaires chargés de le soigner, il n'y a que peu d'espoir d'amélioration de son état eu égard à son âge avancé. Soudan est l'un des trois derniers rhinocéros blancs du Nord sur Terre. Tous les animaux de cette espèce en voie d'extinction appartiennent au zoo de Dvour Králové en Bohême de l'Est, qui en 2009 les avait envoyés au Kenya. La convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains est entrée en vigueur ce jeudi en République tchèque, un des cinq premiers États à l'avoir ratifiée aux côtés de l'Albanie, Malte, la République de Moldavie et la Norvège. Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de l'Europe, a salué l'entrée en vigueur de la convention et appelé les États d'Europe et d'ailleurs à y adhérer sans attendre. La convention, premier traité international visant à prévenir et à combattre le trafic d'organes humains, a été signée par 17 autres États qui ne l'ont pas encore ratifié. Elle crée un cadre global pour réprimer sur le plan pénal le trafic d'organes humains, protéger les victimes et poursuivre les trafiquants. Elle érige en infraction pénale le prélèvement illicite d'organes humains sur des donneurs vivants ou décédés, leur utilisation à des fins de transplantation ou à d'autres fins et d'autres actes connexes. Le traité prévoit en outre des mesures visant à assurer la transparence des systèmes nationaux de transplantation et à garantir un accès équitable à la transplantation. On termine avec un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Anieshka, le soleil règnera et le froid aussi, avec des températures entre moins 7 et moins 3 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information, tout de suite à la suite du programme présenté par Guillaume Larguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Une actualité dont Anna Kubišta vient de nous résumer les principaux titres et une actualité au sommaire de laquelle figure notamment de la politique avec les négociations pour la formation d'une nouvelle coalition gouvernementale qui suivent leur cours. Nous ferons le point sur la situation dans quelques instants. Au sommaire également du cirque nouveau avec une troupe française qui présente son spectacle à Prague. Et puis enfin, la seconde moitié de l'émission sera réservée au tourisme, un tourisme un peu spécial cette semaine, puisque nous vous ferons découvrir la villa Kramarge, une villa qui domine Prague en face du château et qui sert aujourd'hui de résidence officielle au Premier ministre tchèque. Restez donc bien à l'écoute de Radio Prague. On commence donc avec de la politique. 4 mois après la tenue des élections législatives, la République tchèque reste dirigée par un gouvernement minoritaire, un gouvernement qui a échoué, rappelons-le, à obtenir la confiance de la Chambre des députés en janvier dernier. Les négociations pour la formation d'un nouveau cabinet se poursuivent donc et il semble même qu'elles aient quelque peu avancé mercredi. En effet, les dirigeants du mouvement ANO, grand vainqueur des élections en octobre dernier et dont les membres occupent l'essentiel des fauteuils ministériels depuis la nomination du gouvernement minoritaire en décembre dernier, se sont entretenus avec les représentants du Parti social-démocrate, du Parti communiste et du parti d'extrême droite Liberté et démocratie directe. La formation d'une coalition entre le mouvement ANO et les sociaux-démocrates est aujourd'hui l'hypothèse la plus probable. Les 5 autres partis représentés à la Chambre des députés ayant exclu l'idée d'une coopération avec le mouvement dirigé par le Premier ministre Andrei Babiš. Aucun accord de quelque nature que ce soit n'a encore été trouvé entre les deux parties. C'est néanmoins ce à quoi s'efforcent de parvenir leurs représentants, et ce depuis que la social-démocratie dispose d'une nouvelle direction. Pour l'heure, les directions portent essentiellement sur les priorités du programme de l'éventuel prochain gouvernement, et ce comme l'a confirmé le leader de la social-démocratie, Jan Hamáček.
Nous avons demandé à nos experts de préparer un ensemble de priorités de la social-démocratie dans une dizaine de secteurs. Des négociations plus concrètes avec les dirigeants d'ANO sont prévues dans le courant de la semaine prochaine. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que nous sommes confrontés à certains désaccords, par exemple dans le domaine fiscal.
À la sortie de la rencontre de mercredi, le vice-président de la social-démocratie, Jiří Zimola, a indiqué que l'ambition était de parvenir à un accord d'ici à la fin du mois de mars. Toutefois, les dirigeants sociaux-démocrates souhaitent que le mouvement ANO ne puisse pas prendre de décision au sein de l'éventuelle coalition gouvernementale sur la base d'une simple majorité, et ce alors que les sociaux-démocrates ne possèdent que 15 des 200 sièges à la Chambre des députés. La formation d'une coalition entre ANO et la social-démocratie serait toutefois encore insuffisante pour disposer de la majorité à cette Chambre des députés. Et c'est pourquoi le soutien des communistes ou du SPD est également nécessaire. Aucun de ces deux partis n'envisage d'intégrer le gouvernement, mais leur responsable se disent prêts à le tolérer à certaines conditions. Concrètement, communistes et SPD souhaitent que certaines de leurs priorités soient intégrées au programme du gouvernement, comme par exemple des investissements dans le domaine du logement et de son accès au plus grand nombre. Enfin, les communistes entendent également discuter prochainement, plus en détail, avec les sociaux-démocrates, les 2 seules formations de gauche représentées à la Chambre des députés. On poursuit avec de la culture. Le groupe Becquerel, troupe de nouveau cirque, présente son spectacle sur la scène du Jatka 78 à Prague, de jeudi à samedi, 3 jours durant. Donc, ces 4 Françaises opèrent leur dernière saison avec leur spectacle intitulé « Effet Becquerel ». Fanny Alvarez, Océane Pelpel, Sarah Cossé et Fanny Sintès ont accepté de répondre aux questions de Radio Prague et plus concrètement aux questions de Lisa Mazière.
Pourquoi avoir choisi de se nommer le groupe Becquerel ?
Alors, on a choisi de s'appeler le groupe Becquerel parce que c'est un petit clin d'œil à Henri Becquerel qui a découvert la radioactivité sur l'uranium. Et donc, Henri Becquerel, voilà, on a détourné un petit peu l'orthographe du nom pour s'appeler comme ça. Le spectacle s'inspire du fonctionnement physique de la radioactivité naturelle.
Et est-ce que venir faire des spectacles justement en République tchèque ou autre en Europe, ça, c'est l'occasion de rencontrer d'autres artistes et peut-être d'imaginer des partenariats, des projets un peu internationaux, européens?
C'est pas quelque chose auquel on a réfléchi, qu'on a anticipé, je dirais, mais on sait jamais ce qui peut arriver, effectivement. Enfin, partout où on va, on rencontre des gens, et potentiellement, ça peut accrocher ou pas. Je dirais, il n'y a pas un objectif précis de rencontrer des gens pour forcément créer des nouvelles choses avec des gens d'ici, mais en tout cas, en arrivant là, on trouve le lieu super, et c'est vrai que ça donne envie de rencontrer les gens qui sont là.
Quel genre de relation vous entretenez avec votre corps? Est-ce que vous le considérez plutôt comme un partenaire, plutôt comme un outil?
Peut-être moi je vais parler pour moi, mais c'est... bien sûr c'est notre outil de travail, mais en fait c'est commun à tous les êtres humains. Tous les êtres humains ils travaillent avec leur corps, avec leur cerveau plus ou avec leurs jambes plus, mais en fait ça, c'est quelque chose de très universel. Et nous on a une préparation physique qui est assez spécifique, et on a une attention à bien dormir, à bien manger, à bien aimer.
Et justement, qu'est-ce qu'il veut montrer votre spectacle? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Enfin, quel est le thème un petit peu général de ce spectacle que vous présentez dans les jours qui suivent?
Moi, je dirais que c'est quand même la formation du groupe et de comment faire avec toutes les différences, en fait, et comment trouver un terrain d'entente qui soit suffisamment instable, plein d'adaptations, et en même temps suffisamment solide pour pas que ce soit le conflit tout le temps ou ça parte en vrille, quoi. Et c'est un peu une métaphore d'une petite société qui se crée.
Quelles émotions vous voulez susciter chez le spectateur?
Des fois, c'est un peu malgré nous aussi, ce qu'on suscite. Dans notre intention... comme on disait au CERN, on expérimente aussi pas mal les relations entre êtres humains. Ce qui se passe au plateau, c'est plein d'expérimentations entre parfois du conflit, parfois ça mène plus à de la solidarité, du soutien et des liens forts. Des pulsations comme ça.
La
curiosité, beaucoup,
ouais.
Parce que ce qu'on propose, c'est un peu étrange des moments. Donc de la curiosité, mais aussi de l'empathie ou de la violence, du conflit à certains moments. Donc,
Puis on joue pas mal avec l'humour aussi, surtout pour donner du second degré et puis mettre en dérision certaines attitudes ou certains débordements de comportement et d'en rire.
C'est la fin de la première moitié du programme de Radio Prague. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. On passe maintenant à une découverte touristique. Difficile de trouver une plus belle vue sur Prague que celle proposée par la villa Kramář. Du haut de la colline où elle s'élève, vous pouvez voir tous les ponts qui enjambent la Vltava, la rivière qui traverse Prague, cette immense villa construite par le chef du tout premier gouvernement tchécoslovaque, Karel Kramář, et qui se dresse en face du château de Prague, sert aujourd'hui de résidence officielle au premier ministre tchèque. C'est là un reportage préparé par Magdalena Rozinková et Alžběta Hrušková.
Vous avez dit la République tchèque? Voyagez donc.
cheminée à membre vert ou table couverte de peau du buffle. La villa Kramar était à l'époque de sa construction, au début du XXe siècle, une résidence politique très luxueuse. Elle a toutefois été également le théâtre de l'arrestation de Karel Kramar, cette figure incontournable de la vie politique tchèque des dernières décennies de l'Autriche-Hongrie, de la Première Guerre mondiale et de la Première République tchécoslovaque. Découvrons cette villa en compagnie de l'historienne Irena Saidlova.
Nous nous trouvons dans le foyer d'entrée de la villa, avec un bel escalier et une cheminée en marbre. Vous pouvez donc voir qu'il s'agit d'un bâtiment représentatif.
Karel Kramar fait construire cette demeure somptueuse entre 1911 et 1915, alors qu'il n'est encore qu'un simple député. Placée dans la partie est du quartier pragois de Hradčany, en face du château de Prague, la villa, réalisée par Friedrich Hormann et entourée d'un parc à la française, œuvre de František Thomayer, a pu voir le jour à la condition de n'avoir pas plus d'un étage. Mais qui était donc le propriétaire de cette résidence ? En politique de renom ayant joué un grand rôle lors de la naissance de la République tchécoslovaque et dans les premières années de son existence, Karel Kramar brillait dès sa prime jeunesse par son talent dans l'art du débat. Grâce à ses études de droit et sa famille fortunée, propriétaire de plusieurs entreprises, il a vite pu commencer une carrière politique, comme le rappelle Irena Saidlova.
À l'âge de 30 ans déjà, Karel Kramar s'est porté candidat au Parlement autrichien à Vienne en tant que représentant du Parti Jeune Tchèque. Élu député en 1891, il a occupé cette fonction jusqu'à sa mort en 1937, tout d'abord à Vienne, puis après la naissance de la Tchécoslovaquie à Prague. Karel Kramar était un grand partisan de l'idée du panslavisme. Sa femme Nadezhda était russe. Il l'avait rencontrée en 1890 alors qu'il effectuait un voyage de plusieurs mois en Russie. Ils ont passé ensemble 40 belles années. Ils s'échangeaient des lettres d'amour même à l'âge de 70
ans. C'est en effet principalement Nadezhda qui, par amour pour Karel Kramar, a quitté son premier mari et leurs 4 enfants, qui s'occupe de l'aménagement de la villa et lui donne sa forme actuelle.
La villa était très luxueuse. Elle a été équipée avec un chauffage central, un système d'aspiration de poussière centralisé ou un ascenseur de cuisine. Il y avait plusieurs caves et un dépôt à essence. Le complexe de la villa comprend également 2 petites maisons pour le chauffeur et pour le jardinier. Le bâtiment a été construit par l'architecte d'origine autrichienne Friedrich Hohmann, spécialiste de l'art baroque, qui a enseigné pendant 10 ans à l'école des arts appliqués de Prague. L'aspect de la villa est néanmoins beaucoup influencé par la femme de Karel Kramar, Nadezhda Kramarjova, qui arrivait tous les jours pour contrôler l'avancée de la construction. Elle voulait que la villa réponde exactement à ses demandes, à son sentiment esthétique. Aby ta villa odpovídala přesně tomu, co ona
chce, tomu jejímu estetickému cítění. Pourtant, les époux n'ont profité de leur nouveau siège que quelques jours. Une semaine après avoir emménagé, Karel Kramar est arrêté par la police, condamné pour haute trahison et emprisonné à Vienne. La villa est restée inoccupée jusqu'à sa libération en 1917. Irena Saidlova.
Après l'éclatement de la Première Guerre mondiale, Karel Kramar commence à collaborer avec la résistance contre l'Autriche-Hongrie, appelée la mafia. En 1915, il est arrêté et condamné à mort avant d'être amnistié avec d'autres prisonniers politiques à la mi-1917 par le nouvel empereur d'Autriche, Charles Ier. Karel Kramar est donc revenu à Prague comme un héros national, ce qui lui a valu en 1918 le poste de tout premier président du Conseil de la jeune République tchécoslovaque. Československa vyneslo právě ten post
prvního československého premiéra. Une fonction que Karel Kramar va occuper un peu moins d'un an seulement. Au cours de cette année, il dirige notamment la délégation tchécoslovaque à la conférence de paix à Paris, où il exhorte les puissances victorieuses à intervenir contre la Russie des bolcheviks. Après 1919, il continue à s'engager en politique en tant que député et président du Parti démocrate. Il écrit des livres et publie ses articles dans différents journaux. S'étalant sur une surface de 700 mètres carrés, la villa Kramar comporte 56 pièces. Outre plusieurs chambres privées, il s'agit notamment de bureaux et de salons représentatifs, comme par exemple une salle à manger aménagée dans le style byzantin, où nous amène Irena Saïdlova.
Cette salle reflète la russophilie de Karel Kramář. Il était un grand partisan de la coopération des peuples slaves. Il aurait sans doute voulu une fédération des peuples slaves sous le patronat du tsar russe. Cette salle à manger sert encore aujourd'hui pour des raisons représentatives. On y organise des dîners ou des déjeuners officiels pour environ une vingtaine de personnes.
La Villa Kramář propose également une très belle vue sur Prague et notamment sur la rivière Vltava.
Cette vue est vraiment unique. Vous pouvez même dénombrer les ponts pragois. La plus belle vue est depuis le bureau de Karel Kramář. Vous ne pouvez nulle part voir Prague aussi bien que depuis ici. Karel Kramář a vraiment choisi une très belle localité. Après la construction de cette villa, Karel Kramář a néanmoins dû faire face à une vague de critiques. Ses opposants lui reprochaient que la résidence ait été construite dans le style néo-baroque, considéré à l'époque comme le style des Habsbourg par excellence. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus imaginer le panorama de Prague sans cette villa, mais à l'époque, sa construction a suscité beaucoup d'émotions.
Les visiteurs peuvent également découvrir la pièce où Karel Kramář a été arrêté. Il s'agit d'un salon de billard de style russe avec un plafond en bois foncé. Irena Saïdlova.
Cette pièce a été décorée comme une vieille demeure russe. Les murs sont ornés par des motifs de coupoles d'église orthodoxes ainsi que différents motifs animaux et floraux évoquant la campagne russe. Et bien sûr aussi par des trophées, même s'il ne s'agit aujourd'hui que de répliques, car Karel Kramář était un grand amateur de chasse. Cette cheminée verte est décorée par des motifs de fables russes. C'est donc dans cette pièce que Karel Kramář a été arrêté en 1915. Heureusement, il a pu y retourner 2 ans plus tard.
En entrant dans le jardin, nous pouvons lire sur le balcon la devise de Karel Kramář.
La vérité contre tous, c'est une belle devise, même si pas vraiment idéale pour le travail diplomatique. Cela s'est d'ailleurs manifesté au cours de la conférence de paix à Paris. À cause de sa devise, Karel Kramář a eu plus d'une controverse avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Edvard Beneš. Et ses relations tendues avec Beneš ont eu des impacts négatifs, même sur sa relation avec le président Tomáš Garrigue Masaryk.
Depuis le 18 décembre 1998, la villa sert de résidence officielle du premier ministre tchèque avec un appartement inaccessible au public à leur disposition.
L'appartement de 6 pièces occupe tout l'étage. Il y a un grand salon. Il est équipé selon les besoins de différents chefs du gouvernement. Pour l'instant, seuls Miloš Zeman et Vladimir Špidla ont profité de la possibilité de vivre dans la villa Kramář.
La villa ouvre exceptionnellement ses portes au grand public, par exemple à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre, rappelant la naissance de la République tchécoslovaque. Les époux Kramář ont construit également 2 autres demeures, la villa Barbo en Crimée et la villa à Vysoké nad Jizerou en Bohême du Nord.
Voilà, on arrive ainsi au terme du programme préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention. Comme chaque jour, on se quitte avec le grand concours pour élire la chanson tchèque du siècle. Rappelons que chaque jour, du lundi au vendredi, nous vous présentons dans nos émissions une des 100 chansons qui se sont inscrites dans l'histoire de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque, et ce depuis la fondation de la République tchécoslovaque indépendante. C'était il y a 100 ans de cela. Notre concours se poursuit aujourd'hui avec l'année 1956. La chanson du siècle. Il existe un proverbe tchèque qui dit que lorsque 2 personnes se disputent, La troisième personne en rit. Cette situation est d'ailleurs survenue sur la scène musicale populaire tchèque peu de temps après le coup de Prague en février 1948. D'un côté, il y avait la poussée des chants de propagande destinés aux masses. De l'autre, le sort malheureux de tout ce qui rappelait, d'une façon ou d'une autre, le jazz et le swing contemporain et qui était donc mal vu pour des raisons idéologiques. Mais qui était le troisième personnage? Eh bien, il s'agissait des orchestres d'harmonie appelés Dekhovka et des chansons populaires jouées par ces cuivres, ces bois et ces percussions. Si ces ensembles faisaient l'objet d'objections dans la presse, notamment en raison des paroles de leurs morceaux, ils n'incommodaient nullement les fonctionnaires du parti. Au contraire, les camarades de tous rangs profitaient de leurs mélodies pour danser durant leur temps libre ou défiler au son de leurs notes le 1er mai. Mais concentrons-nous sur leur répertoire de danse. À partir de 1956, la polka du compositeur Jaromír Vejvoda et du parolier Ladislav Jatsura, Jednou Dvakrát, en français une ou deux fois, a connu un énorme succès et 140 000 disques ont été vendus. Son titre était censé exprimer les lamentations impuissantes d'un amoureux qui souhaite tout d'abord attendre sa belle, puis qui la pleure avant finalement de l'oublier par dépit. Mais les auteurs de la chanson expliquent que le titre se rapporte à une anecdote. L'un d'entre eux se serait vu demander par le contrôleur vendant alors les tickets dans le tramway s'il en souhaitait un ou deux. C'est là qu'est née l'idée de cette chanson interprétée par Milan Chernohoz et l'on ne peut aujourd'hui que s'étonner du tube auquel peut mener une question innocente et un peu d'inspiration. On écoute donc la chanson intitulée en tchèque « Jednou Dvakrát » en français « Une ou deux fois ».
Vzpomínám, kde tě asi mám, jen půl hodiny. Říkáš, nic není, kdo má stále trpět tvoje zpoždění. Jednou, dvakrát budu čekat, po třetí nechám tě stát. Jednou, dvakrát budu plakat, po třetí se budu smát. Jaro, abys věděla, jedna vlaštovička nedělá. Jednou, dvakrát dám si zahrát, tebe nechám trucovat. Jaro, abys věděla, jedna vlaštovička nedělá. Jednou, dvakrát dám si zahrát, tebe nechám trucovat. Jaro, abys věděla, jedna vlaštovička nedělá. Jednou, dvakrát dám si zahrát, tebe nechám trucovat. Jaro, abys věděla, jedna vlaštovička nedělá. Jednou, dvakrát dám si zahrát, tebe nechám trucovat.